Salut à tous, bienvenue sur Niptech, Niptech 271. Nous sommes le lundi 6 avril 2015. C'est le lundi de Pâques, donc normalement, vous avez tous été tranquilles en vacances. En tout cas, une bonne partie d'entre vous. J'ai appris que c'était pas férié vendredi passé à Paris. Donc bravo aux Parisiens de bien bosser. Chez nous, c'était férié vendredi et lundi. Donc, je vais vous dire si on est frais avec Mike qui est là avec nous. Salut Mike. Plein de podcasts dans les pattes.
Eh oui, bien vu. Bonjour à tous. Plein de podcasts dans les pattes. Alors, c'est mon troisième en deux jours. Alors, on dit qu'on fait environ une à deux heures par podcast. Donc, c'est presque ma sixième heure d'émission en deux jours. Ça fait plaisir. J'ai fait Nip Sales. Ce matin, on a fait ensemble le rendez-vous tech avec notre très cher ami Patrick. C'était très cool. Et ce soir, ouais. Nip Tech, ça fait plaisir. Ouais, j'aime bien quand même les podcasts. J'aime bien faire du podcast, mais j'aime pas me répéter, j'ai remarqué.
Oui, bah là, effectivement, dans le rendez-vous tech, on a parlé de plein de trucs, c'était sympa. On a parlé beaucoup de Facebook. Moi, ça, on vous en parlera pas, donc voilà, pas de souci. On a parlé pas mal de Windows, ça, on vous en parle jamais, donc pas de souci. Et puis, pas mal de Chrome OS aussi. Bah, finalement, rien du tout dont on voulait parler, alors c'est plutôt cool.
Oui, c'est plutôt cool. Après, tu vois, quand on fait beaucoup de podcasts, j'adore, mais je me dis, je sais pas comment les gens à la télé ou dans les news TV ils font pour se répéter comme ça à longueur de journée et redire la même chose. Il y a un côté qui doit être abrutissant, qui doit faire assez peur, quoi. Moi, je préfère, ben, quand on parle, au moins de parler de choses différentes, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, je dis, ils écrivent leurs textes, ils lisent, et puis je sais pas, effectivement, c'est de l'art de la scène, quoi. C'est, ouais. Nous, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement, on n'est pas des artistes, donc effectivement, c'est plus dur pour nous, mais on a plein de bonnes news tech, donc il n'y a pas de souci. Puis on va être assez concret, du coup, on va parler un petit peu d'outils et de trucs comme ça. Tu veux que je commence avec un outil? Je sais pas si tu le connais, allez, hop, j'en envoie un.
Moi, avant que tu commences avec un outil, je veux d'accord. que tu me dises qui a gagné le bouquin, parce que ça m'intéresse.
Ouais,
de la dernière
alors,
fois.
Comment ça? Maintenant, tu vois, j'engage beaucoup plus de gens, puis j'ai l'habitude de donner du feedback. Alors, je sais que la technique du sandwich, vous savez, qui est de dire un truc positif, un truc négatif, un truc positif, ça ne marche pas. Alors, je vais être assez franc. Vous ne m'avez pas forcément impressionné pour les qualités des raisons pour lesquelles vous voulez avoir le livre. Ça allait de « ouais, pourquoi pas ?» à « parce que je sais lire ». Donc, ouais, c'était bien, mais en même temps, ouais, je sais pas, dans ma tête, j'avais imaginé un truc un peu plus fou. Mais enfin, vous avez été plein à répondre et puis c'était très cool, donc merci et bravo. Et du coup, j'ai décidé, comme ça, tout seul, de donner à la première personne qui a répondu, vu que tout le monde était un peu ex-aequo sur les raisons d'avoir le livre. Donc le livre dont on parle, c'est celui de Patrick Ebischer, hein, la biographie du président de l'EPFL qui a fait remonter cette institution dans les toutes meilleures universités mondiales. Est très entrepreneurial. Et donc, c'est CyberKick qui a gagné le bouquin. Et voilà, @CyberKick, K-E-A-K à la fin. Félicitations d'avoir été prompt à la réponse et au tweet.
Parfait. Ah ben, tu donnes un petit challenge à la communauté. Hein. La prochaine fois que vous envoyez des tweets à Ben, ça doit être mûrement réfléchi. Donc, prenez votre dictionnaire, essayez. N'oubliez pas que Ben a bossé pour Google. Hein. Il était ingénieur chez Google, donc c'est une personne d'une rare intelligence. Donc, il faut lui donner des réponses intelligentes, sinon il s'énerve. C'est ça?
Fait péter, ça ne suffit pas comme raison de pourquoi vous devez avoir le livre. Mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé, c'était très cool, merci. Voilà, donc je vais te parler de ce premier petit truc que j'ai vu qui est sympa, que je viens d'installer. Je n'ai pas encore pu l'installer, mais l'essayer, mais ça a l'air bien. C'est français, si je ne me trompe pas, c'est Infinite, alors sans E.io. Infinite.io. Et qu'est-ce que ça fait? C'est une façon de partager des documents des gros fichiers entre ton téléphone et ton ordinateur. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est assez cool parce que là, on peut envoyer... C'est une sorte de... Voilà, pourquoi compliquer, disons? C'est WeTransfer pour ton mobile.
Alors, maintenant, la première question qui me vient, c'est quoi la différence avec Google Drive, avec Dropbox?
Bah, le problème avec Dropbox et tout ça, c'est que tu dois... Sur mobile, moi, je comprends pas comment ça fonctionne, Google Drive et Dropbox. J'arrive pas, et je suis peut-être nul, hein, mais j'arrive pas à passer un fichier de mon téléphone à Dropbox facilement, quoi. Mais j'ai pas installé l'app. Dropbox pour moi, c'est pas sur le mobile, ni Google Drive d'ailleurs. Je crée des documents, je fais des trucs, mais quand j'ai un fichier, une vidéo par exemple que j'ai pris sur mon téléphone à transférer, c'est vrai que je pense pas l'utiliser. Ça me semble compliqué, je sais pas.
Mais
c'est
est-ce
pas
que
comme
tu penses
WeTransfer.
Pas que ça...
Toi, WeTransfer, c'est simple.
Oui.
Tu balances, t'as l'email, c'est immédiat. Voilà, moi, je veux la même expérience.
Mais est-ce que tu penses que c'est pas dû au fait que c'est plutôt le type de fichier que tu peux pas lire sur iOS ou Android? Je vais prendre un exemple simple, un .zip. Alors, je ne connais pas du tout Android, hein. Vous allez me dire, mais bien sûr, on peut lire un point zip sur Android, change à Android au lieu d'être sur iOS. Mais des fois, j'ai des fichiers que finalement, ça ne me sert même à rien de downloader sur mon mobile parce que de toute façon, je ne pourrais pas les lire. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, oui, ça c'est. Alors ça c'est un autre problème, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ça m'est arrivé plein de fois. T'es là, puis tu cliques comme un con, effectivement, et puis tu peux rien en faire. C'est vrai, hein, il n'y a pas encore, en fait, c'est ça qui nous manque. Il faudrait
Exact.
plutôt que tout soit des lecteurs entre les uns et les autres. Mais j'aimais bien Infinite.io quand même, parce que c'est une équipe qui est elle à Paris en partie, mais elle est aussi à Buenos Aires et puis à New York. Donc, tu vois, ils avaient le côté international, ils avaient le côté, ça me semblait utile. J'aime bien quand même. J'aime bien, mais
Oui.
c'est vrai, si vous trouvez. C'est toujours le truc. Hein, déjà, dans le rendez-vous tech ce matin, on se disait, ah, il y a des trucs super cool, il nous manque plus que l'usage qu'on peut en faire.
Bon, 40 ratings et 1, 2, 3, 4, 4 étoiles et demie, c'est déjà pas mal. Alors, c'est leur pote sûrement, mais c'est déjà, ça veut dire que ça joue. Moi, j'aime bien l'idée. On voit que ce monde n'est pas encore totalement, comme on dit en anglais, disrupt, n'est pas est encore mûr à des changements. On voit, là, on voyait Amazon qui faisait pour 12 dollars. J'entendais notre ami Mathieu en parler sur son podcast, qui disait pour 12 dollars, ben, on obtient quoi? On a des photos illimitées. Pour 12 dollars par année, c'est vraiment rien. Donc, on voit vraiment que le monde du hosting est encore mûr à avoir quelques changements qu'on va être étonné encore cette année, je pense.
Oui, à fond. Et puis là, j'ai parlé d'une deuxième start-up française. Alors, tout le monde connaît BlaBlaCar hein, quand on veut se déplacer de Paris à Lausanne, par exemple. Bon, moi, BlaBlaCar, j'ai toujours dit, hein, c'est le genre pour moi, j'aime beaucoup être en silence et bosser quand je voyage. Donc, l'idée d'avoir un inconnu qui me parle, c'est extrêmement stressant pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Et là, c'est une autre start-up qui s'appelle Drivee, DRI. IVY, qui vient de lever quand même 8 millions d'euros. Alors, entre autres, via la Banque publique d'investissement, mais pas que. Il y a Index Venture, il y a Alven Capital qui est aussi dans le coup. Et là, c'est la location de voitures entre particuliers. Et la raison pour laquelle ça m'a aussi bien marqué, c'est que ce genre d'idée, vous savez, moi, je fais des startups week-end, pas depuis 50 ans, mais enfin, ça fait quand même pas mal d'années que j'étais dans les startups week-end. Et dans les premiers, déjà, on voyait ce genre d'idée. Et tout le monde était là, mais oublie, ça va jamais marcher. C'est juste, arrête quoi. Ça sert à rien du tout. Et ben voilà, plein d'années plus tard, quand même, ça arrive et ça arrive sérieusement. Donc eux, ils
C'est un
gèrent tous les
Airbnb
problèmes.
pour caisse, en fait.
Exact. Pour 30 euros par jour, tu peux avoir, attends, on va voir là, une Dacia, voilà, qui a pas trop de kilomètres, donc moins de 15 000, qu'un moteur à essence. Bon, bah, ça, on s'en doute un peu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Tesla. Puis il y a tout, toi, clim, pneu neige, lecteur CD, machin. Et puis les
Imaginez
dates de
ça.
disponibilité.
Imaginez ça. Alors, normalement, bah, moi, quand je voyage, je prends quoi? Soit je prends le train, soit je prends des fois le taxi, si c'est pas si loin, ou alors je vais chez Avis et puis je loue une bagnole. Imaginez le Airbnb pour bagnole, c'est-à-dire je arrive à l'aéroport, il y a 50 000 bagnoles, une personne, elle part de toute façon pendant 2 semaines, moi j'arrive pendant 2 jours et je reviens et. Voilà, je peux utiliser sa bagnole. En plus, c'est une grosse Mercedes qui me coûte que 40 euros par jour. Je suis tout content de la prendre. Moi, imaginez que c'est une société qui a cette voiture, parce que voilà, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de louer la voiture afin de se faire de l'argent? Ils s'en foutent. De toute façon, c'est une voiture d'entreprise. Donc, ça peut marcher. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être, c'est pas seulement le fait qu'on ait un mobile, le fait aussi que mentalement, on est prêt à accepter ça maintenant, alors qu'avant, on ne l'était pas.
Ouais. Puis bon, et je pense qu'il y a un acteur hyper important qui a bougé là-dessus, c'est simplement l'assureur. Parce que tu peux pas faire
Oui.
ce genre de service sans l'assureur. Alors ici, l'assureur, c'est Allianz,
Ah, le
qui
plus
est
gros
voilà,
assureur mondial, presque.
assurance et assistance panne 24 heures sur 24 incluse dans le prix. Ça, c'est quand même hyper important. Et du coup, ben voilà, c'est vrai que si tu n'avais pas ça, personne n'allait prêter sa bagnole à quelqu'un que tu ne connais pas. Après, je me demande jusqu'à quel point eux-mêmes, toi, est-ce que c'est le site qui contrôle que tu aies bien un permis valide, ce genre de truc, tu vois, que tu ne prêtes pas ça à un troupeau de gens ou d'adolescents qui ont envie de faire du rodéo le week-end?
Ouais.
J'imagine que c'est le site qui se charge de ça.
Mais la
Je
même
pense que
chose était le même problématique avec Airbnb.
c'est.
Moi,
Oui,
je
c'est
dis,
vrai, ouais.
mes
C'est
amis
vrai.
comment ils s'appellent, Hertz ou Avis, Tremblay, parce que ça peut vraiment disrupter une économie, une verticale de manière assez, assez folle. Une chose qu'il faut se dire, pour moi, le point de succès de ça, ça sera la facilité avec laquelle on le fait. Airbnb, hyper simple. Uber, d'une facilité tellement déconcertante, c'est encore plus facile que de lever la main pour appeler un taxi. D'ailleurs, je suis très content. Uber est à Lausanne, je suis tout content. Je vais bientôt les utiliser. J'ai toujours des débats avec les taximans quand je les prends sur Uber. J'aime bien. On débat souvent. L'autre soir, c'était en rentrant d'une soirée, c'était marrant. Je me suis bien amusé. Ils sont tous contre, en tout cas. Voilà. Et puis, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est quand même cool, qui est vraiment cool.
Ouais, non, c'est super. Donc voilà, ça c'est la deuxième startup française dont on voulait parler aujourd'hui. Donc c'est bien, il se passe des trucs. Ils sont partenaires avec BlaBlaCar, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc c'est pas mal. Je vois que tu as mis un petit mot sur une startup que j'ai vu passer. On va parler pas mal de startups là, parce qu'on s'est dit, on a parlé pas mal de lourds ce matin dans le rendez-vous tech. Donc allez écouter pour les trucs un peu plus des grosses sociétés. Nous là, on se fait plaisir avec les petits outils et services sympas qui sont en train de pointer leur nez. Là, c'est Visi App. Alors, oui. Visi 2Z App. Bon, évidemment, c'est sur iOS.
Comme d'hab. Ça s'appelle VV. Je vais le dire parce que il n'a pas bien épelé, Ben. Donc, après, vous allez vous embêter. Vous allez devoir aller dans les notes de l'émission, ce que vous n'allez pas faire. Donc, je vous l'appelle VIZZY App. Donc, c'est quoi ? C'est un truc assez marrant que je trouvais pas mal. C'est au fait, ça te permet d'enregistrer les deux côtés avec ton iPhone. Alors, vous savez, sur l'iPhone, il y a une caméra frontale et une caméra pas frontale, comment dire. Et donc, ça vous permet d'enregistrer.
Tu dis ça pour ceux qui ont des Android, tu penses qu'on n'a pas ça sur Android ?
Je sais pas, mais puisque vous êtes dans le siècle passé, je sais pas exactement ce que vous avez. Non, je vous embête, je sais. Je sais pas si mon prochain téléphone. Mais enfin, l'idée est pas mal. C'est-à-dire, souvent, on filme quelque chose, mais on filme pas en simultané sa réaction. Imaginez, vous êtes en train de filmer un mariage ou votre ami qui fait n'importe quoi, et il y a un petit rond comme ça avec votre visage qui rigole en même temps. Et tout ça intégré dans l'application. J'ai trouvé ça vraiment cool, l'idée super. Je trouvais bien cette interaction-là parce qu'elle manque. Ça donne une couche supplémentaire à la vidéo que je trouve intéressante. Alors bien sûr, aujourd'hui, je me suis dit, bon voilà, c'est le lundi de Pâques, testons ça. Et j'ai été super déçu. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait, alors est-ce que c'est mon iPhone 5 qui est trop vieux, enfin 5S qui est trop vieux, qu'il faudrait que je change mais en fait, quand on prenait la vidéo, il n'y avait qu'un côté de la vidéo qui fonctionnait. Donc, c'est comme si on faisait une photo d'un côté, puis après, on filmait l'autre côté. Donc, pour moi, ça n'a pas bien marché. Est-ce que c'est un problème de l'app ? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su l'utiliser ? Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois. Voilà. Mais l'idée est bonne. Pouvoir filmer, c'est une vidéo multidimensionnelle, si on veut bien.
Ouais. D'accord. Ouais, non. Ok, bon, c'est vrai qu'il faudrait voir. Tu sais, il y avait cette application qui fait exactement ça pour les photos. Elle s'appelle quoi ? Front, oui. Quelque chose comme ça. Mais au début, alors autant c'est vrai qu'on a vu beaucoup de photos comme ça. Et puis maintenant, j'en ai plus vu du tout depuis un bon moment. Oui. Donc finalement, peut-être que toi, c'est déjà tellement dur de prendre une photo plus ou moins honnête. Dans un sens, si en plus tu as une contrainte en plus qui est que ça doit être plus ou moins honnête avec la lumière, avec le machin. Dans les deux sens, tu vois, ça commence à faire beaucoup pour des... Bah voilà, je pense qu'on est tous aussi doués les uns que les autres pour prendre des photos et ou des vidéos. Donc, mais bon, écoute, cool, Visi App, à voir. Hein, voir si c'est le prochain Meerkat ou Periscope ou autre truc dans le genre, vu que la vidéo est quand même pas mal à l'honneur en ce début d'année. Quoi.
Oui, mais c'est marrant de se dire... et quand je pense à la vidéo, je pense à des choses comme... Tu te souviens de timelapse sur ton iOS ou slow motion ? Qui te permettent d'enregistrer très rapidement, par exemple si tu fais un voyage ou si tu veux voir un building en train d'être détruit, ta timelapse qui augmente la vitesse de la vidéo et ta slow-mo qui fait un espèce de ralenti super bien. Et je vais te poser une question, est-ce que tu as déjà vu, à part pour avoir testé une fois peut-être, des vidéos postées comme ça sur le web ?
J'en ai vu une. Dernièrement, tiens, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça existe encore ce truc sur Facebook. Je pense quelqu'un qui a dû se tromper de bouton. Hein. Parce que, franchement, quand tu vois la vidéo, tu te dis pas que c'était fait exprès, tu te dis plus, ah non, c'est raté quoi. Mais bon, toujours est-il que oui, j'en ai vu une, mais alors voilà, c'est rare quoi.
Oui, et ben c'est fou parce que quand on l'a vu, on s'est dit, ben technologiquement, déjà, c'est plutôt, je pense, difficile à faire avec son téléphone. Donc au niveau Apple a dû travailler là-dessus et pourtant, ça a pas du tout pris. C'est pas, c'est une niche qui est niche que les gens ont besoin, mais je pense que c'est certains photographes peut-être. Mais nous, je vois très peu de gens faire des slow motion. Et des fois, je leur montre qu'il y a cette fonctionnalité sur leur iPhone. Puis ils sont là, waouh, c'est trop cool ça, tu vois, même personne ne sait. Donc des fois, ben, ça sert à rien. Il y a de la technologie pour laquelle on n'a même pas de use case. Voilà, time
Ouais.
lapse, slow motion.
Ouais, bien essayé, c'est vrai, ces trucs. Bah, et en plus, ça fait du bien de se rappeler parce que c'est pas toujours les petits, effectivement, qui essayent et qui se plantent. Bah voilà, ma foi, on sait jamais ce qui va tenir, quoi. Et en parlant de ce qui va tenir, c'est. Alors, je fais un petit saut, mais une nouvelle que j'avais trouvée vraiment très intéressante. C'est le Google Advanced Technology and Project Group. Donc, ça s'appelle Google's ATAP. Qui est en fait, vous savez, ils ont les Google X, là, le lab qui ont fait les lunettes, etc. Et, enfin, il y a plein d'endroits qui s'occupent de recherche et développement chez Google. Je crois que ça leur prend environ 10 milliards par année, en gros, de coûts, donc ils investissent pas mal. Mais là, ils ont une nouvelle façon de faire. Alors, si vous ne l'avez pas lu, c'est un article qui est sorti dans Business Insider, qui disent, voilà, Google a tué un projet de batterie qui était 5 fois plus, qui durait 5 fois plus longtemps sur les téléphones mobiles. Ils expliquent d'où ça vient. Et en fait, la philosophie de Google, c'est de créer un sens d'urgence qui est propre aux entrepreneurs. C'est-à-dire, quand ben voilà, quand tu lances ta boîte, tu n'as pas 10 ans pour essayer avec plein de thunes et tout ça. C'est soit tu arrives dans un an ou deux, soit tu n'as plus de thunes et puis tu es mort. Alors, comment ils font pour réussir à ça? Ils prennent pas mal d'externes, ils prennent des project managers et puis ils leur disent, vous avez 2 ans. Dans 2 ans, on tire un trait et si ça ne marche pas, on vire tout le monde. Point final, c'est terminé là, tout le monde dégage. Et si par contre vous réussissez, alors là, hop, vous venez chez nous vraiment pleinement, on ouvre les vannes de tiroirs à pognon, comme on sait le faire si bien, et puis voilà, là tu peux vraiment avancer, mais avec le momentum, comme on dit, la vitesse que tu as déjà acquise sur un projet, avec la pression et l'habitude de survivre. Alors oui, c'est bien capitaliste, oui, c'est voilà, c'est pas tout doux, mais j'ai trouvé ça assez malin pour des grosses sociétés. Voilà, c'est tellement dur d'arriver à garder ce sens de l'urgence.
Ouais. Moi, alors tu es un ex-Googler, donc aussi tu peux peut-être avoir des insights de l'époque à l'intérieur. Est-ce que ça, c'était une façon de faire que tu avais vu à l'intérieur de Google, même
Non.
sans ce groupe spécial ATAP actuellement?
Non, alors, il y avait une. Disons que pour te faire virer de Google, c'est très dur d'entrer. Mais pour te faire virer, en gros, tu sais, si tu fais pas le fou à te pointer nu au bureau ou des trucs comme ça, c'est très très difficile de te faire virer. Alors, il y a des problèmes de performance, il y a des fois, oui, toi, je dis pas que c'est jamais personne, mais c'est plutôt difficile si tu es honnête dans ton travail. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et c'est parce que ça crée de l'insécurité et puis que quand tu travailles dans un monde, disons, on va dire de gens plutôt type ingénieurs qui sont pas les plus chauds pour l'insécurité, ça marchait pas bien. Donc, c'est vrai qu'eux-mêmes, ils ont toute une partie de personnes bah, qui ne sont pas là pour avoir la pression entrepreneuriale. Et donc, tu ne peux pas en faire des porteurs de projets de type Google X. Enfin, c'était dur pour eux d'identifier ces personnes-là. Donc, ils organisaient des concours à l'interne, comme font beaucoup de boîtes, des projets que tu pouvais, le 20%, même si ça n'existait plus depuis longtemps, c'était un petit peu l'idée aussi.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est que, un, il a l'air d'être managé par une personne assez compétente, déjà une femme, il faut le dire, donc ça c'est bien, on dit souvent qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech, mais le lab le plus incroyable de Google est managé par une femme, ce qui est bien, bravo Google. Deuxième, ce que je trouvais bien, c'est vraiment, ils ont, peut-être grâce à ça, ils arrivent à faire venir des gens de type entrepreneur qui ne viendraient normalement jamais chez Google, justement. Parce qu'on leur propose ces 2 ans, on leur propose de se pousser en avant, on leur propose un projet qui les intéresse, de, entre guillemets, changer le monde ou travailler sur un domaine extrêmement fou. Et ces gens, je pense qu'ils peuvent travailler dans plein d'autres sociétés, parce que c'est des gens plutôt calés. Donc, je pense qu'avec ça, ils arrivent à lier les deux mondes et lier ces mondes, voilà, comme tu dis, ben, des ingénieurs qui ne veulent pas prendre des risques avec d'autres qui sont des entrepreneurs et qui veulent changer la planète. Et ça, je trouve cool. Est-ce que Google Glass faisait partie de ce truc et a été
Non.
finalement ben, arrêté ou pas?
Non, Google Glass, eux, c'est parti de Google X, qui est un autre projet là qui sont plus futuristes. Les Google Cars aussi étaient dans le Google X, qui venait de ATAP. Il y avait le Project Ara, là, tu sais, le téléphone modulaire, qui lui a été bougé carrément dans une nouvelle
Ah
entité.
oui.
Donc, ils sont plus du tout en danger, on va dire. Et je ne sais pas s'ils ont d'autres trucs. Tu sais, tu parles de la dame qu'ils ont engagée, hein, c'est
Oui.
Regina Duggan. Tu connais DARPA, ce que c'est? C'était la chef de DARPA. DARPA, c'était c'était, enfin, c'est toujours le bras armé de la recherche américaine. Les militaires qui font de la recherche. Et tu penses évidemment à Boston Robotics, c'est ce genre de trucs hein, qui sont typiquement des projets DARPA. Donc Boston Robotics, vous vous souvenez, c'est les robots que Google ont rachetés là, qui peuvent courir, c'est des mules. Ils vont à toute vitesse à travers les bois et les collines et trucs comme ça. Donc c'est vraiment du lourd et on voit un petit peu où il pose ambition. Je pense pas que ce soit le genre de personne qui se pointe pour faire des apps mobiles, toi, genre Candy Crush, même si on aime bien.
Ouais. Mais une chose que, ça me fait penser, à un article que j'ai vient de lire avant de commencer l'émission, qui dit la chose suivante, qui dit « Pourquoi Procter & Gamble est plus disruptif que vous ?» Et il parle à vous, aux gens de la Silicon Valley. Et vous connaissez Procter & Gamble, P&G, hein, ceux qui font les gilets, ceux qui font les savons, ceux qui font voilà, pour tous nos produits qu'on utilise. Et ils expliquent que finalement, ils parlent à ces entrepreneurs et ils disent « Ouais, vous de la Silicon Valley, vous pensez que vous êtes disruptive, alors qu'eux, ils existent depuis 1827 et ils sont plus de 500 milliards de valuation. Et il explique leur façon. Ils sont plus de 80 milliards en annual revenue. Hein, je me trompais. Ils ont été créés en 1837. Voilà. Et il dit, ils dominent encore leur domaine et ils expliquent pourquoi. Il dit, bah, alors comment un P&G qui existe depuis plus de 150 ans arrive à dominer et à rester alerte. Et j'aimais bien ça parce que c'était vraiment instructif. En fait,
alors dis-nous.
Je vais vous dire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent, ils vont vraiment sur le terrain. Donc la force de P&G, c'est que quand ils ne se basent pas seulement sur des data ou sur le feeling du project manager ou du product manager, mais ils vont étudier les mœurs sur le terrain. Ça, ils prenaient l'exemple de Mexico où les gens, ils vont pour voir comment les gens vivent, comment les gens utilisent les produits, comment les gens utilisent leurs produits pour comprendre le consommateur. Et ça, je savais parce que je connaissais des gens qui travaillaient là-bas qui m'avaient dit qu'ils avaient été voir dans une famille et puis voir les gens comme ils vivent avec les produits, comment ils lavent leurs habits et ce genre de choses. Ils expliquaient, il y avait leur produit Tide qui était, je crois, un détergent pour habits et ils ont vu qu'en Inde, 80% des gens lavaient leurs habits à la main, ce qui voulait dire que ça leur donnait avec ça des espèces d'irritation en utilisant Tide. Et en faisant ça, ils ont développé quelque chose de différent, plus naturel, qui a permis d'exploser les ventes. Et ça, je trouve intéressant d'aller jusqu'à comprendre le consommateur, aller voir comment il vit, pas seulement se baser sur des statistiques et des analyses.
Ça va faire plaisir à notre ami Jean-Philippe Encausse qui est complètement dans ce domaine-là. Alors, si vous ne le suivez pas, suivez-le. Il était la Nipcon, donc vous devez en tout cas savoir qui c'est. Si vous ne suivez pas la communauté par ailleurs. Et lui, il a donc créé une boîte qui s'appelle What's Home qui va dans ce sens-là, qui permet justement de mieux comprendre comment est-ce que les gens utilisent des produits. Donc, c'est cool. Ping à Procter & Gamble pour un rachat. Jean-Philippe, t'es prêt parce que là, il rachète à coup de milliards, donc il faut se tenir prêt, quoi. Mais tu vois, comme quoi, ouais, c'est vrai, la Silicon Valley a tout inventé, le Lean Startup et tout ça, mais les gens n'ont pas attendu effectivement d'avoir Lean Startup pour le faire. C'est nous, surtout les ingénieurs informaticiens qui ne savions pas, quoi.
Ça, mais ça montre aussi que des grands peuvent avoir les outils pour inventer et rester au devant de la scène et être créatif et être aussi à même de se développer. Alors oui, dans le domaine de l'IT, dans le domaine de notre monde qu'on adore, c'est très différent, mais il y a quand même ces grosses sociétés qui existent et qui ont un processus de développement qui fonctionne.
Moi, j'ai besoin de tes compétences, Mike. Alors, là, je vais changer de sujet, mais c'est pour un article qui parle du nombre de wearables dont on attend les ventes, donc du nombre de ventes de wearables, pour parler français, parce que finalement, pourquoi pas. Et ils disaient, ils s'attendent à ce que cette année, on soit autour des 50 millions, 45 millions et quelques. Bon, je me suis dit, alors, toutes les montres, tous les bracelets, tous ces trucs-là, j'ai trouvé que c'était très, très peu. Alors, je me suis dit, essayons de comparer. Ils s'attendent, par exemple, l'iPhone, qui cartonne en ce moment, mais ils s'attendent à ce qu'il y ait 74 millions de vendus au premier trimestre, 2015. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que c'est quand même très peu, non?
Oui. C'est trop peu. C'est trop peu, ça, c'est sûr. J'ai essayé de regarder ce chiffre par rapport à... ils disent, en 2014, il y en a eu 4,2 millions. hein, 4,2 millions qui ont été vendus. Et ils parlent des montres là. Ils disent 45 millions, ils attendent en 2015 et 126 millions en 2019. Donc c'est quand même assez conséquent. Le marché est en train de grandir. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ce qu'ils regardent aussi, ces recherches, c'est un nouveau marché. Et les wearables, c'est un nouveau marché. On continue à acheter un portable, on continue à acheter un téléphone. Et en plus de ça, on va s'acheter une montre. Donc, c'est aussi le marché tech qui grandit parce qu'on a une technologie de plus à notre bras. Moi, j'aime bien les wearables. J'étais étonné qu'il n'y en avait pas plus qui étaient vendus parce que je me disais, bon, je vois quand même pas simplement de gens avec des Jawbone ou des... Mais je pense que c'est vrai que l'Apple Watch va faire exploser. On va le rendre un peu public. Et c'est vrai, il y a 3 jours, j'étais là, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, j'ai cliqué et puis je me suis dit, mais quel Apple Watch je veux? Et maintenant, je sais là, celle que je veux. Mais le problème que je vais avoir, c'est que...
Trouver les 10 000 balles.
Oui, non, je ne vais pas acheter à 10 000 francs. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de patente en Suisse avec l'Apple Watch. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a déposé une plainte. Et cette patente, elle tombe fin de l'année. Donc, on ne va pas avoir d'Apple Watch en Suisse avant la fin de l'année. Donc, il faudra les acheter en France.
Non, c'est pas. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais on va pas rentrer dans les détails. C'est un problème de nom de marque, donc de dépôt de marque. C'est quelqu'un qui a posé une montre, effectivement, qui s'appelle Apple, mais une marque, donc ça c'était il y a longtemps, et une marque est seulement considérée valide si elle est utilisée, contrairement aux brevets habituels qu'on peut juste troller tout ce qu'on a envie. Non, les marques, ils ont été plus intelligents. L'usage fait l'utilisation, donc normalement c'est bon. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont confondu dans la presse, et puis après j'ai vu ça se répandre. Et puis j'ai vu surtout beaucoup d'avocats commencer à s'agiter en disant non, c'est pas un brevet, c'est une marque, mais tout le monde s'en fout de ce
qu'ils disent. Tout le monde s'en fout. Mais alors ça veut dire que l'Apple Watch pourra sortir en avril en Suisse ?
Non. Ouais, normalement, alors je dis à 95% sûr. Mais pas. Bon, peut-être qu'ils vont avoir un petit peu peur, ou peut-être qu'ils s'en foutent. Ils disent, bon, on va pas se prendre la tête avec ça. Toi, ils ont d'autres chats à fouetter que de venir ici. C'est vrai qu'il y a le côté symbolique qui est rigolo. Ouais. C'est pour ça que l'histoire a pris, sinon tout le monde s'en ficherait. J'ai trouvé juste pour donner un ordre de grandeur. Hein, malheureusement, c'est pas des chiffres très récents, mais pour dire entre avril 2013 et fin mars 2014, Fitbit avait vendu 3,3 millions de trackers. Fitness tracker. Donc c'est peu, c'est vrai que je sais pas, on est peut-être tellement habitué à des chiffres à la Apple et tout ça que pour le marché global, moi je m'imaginais plus. On sait que ça va vite, hein, mais voilà. Bon, on va garder tout ça à l'œil. Et si vous avez des chiffres peut-être plus précis que ceux qu'on a, eh bien niptech.com, vous pouvez laisser un petit commentaire et nous dire tout ça. Et puis, juste peut-être pour terminer sur les watches, je ne sais pas si tu as lu cet article de The Verge où ils ont parlé de la Moto 360. Donc, c'est cette montre par Motorola qui est assez jolie d'ailleurs, qui est sympa. Et que maintenant, tu peux customiser. Donc, tu peux aller sur leur site et puis tu peux choisir la couleur du cadran, la couleur de ton bracelet, pas ce qu'il y a dedans, mais enfin, tu peux quand même la rendre plus fidèle. Et c'est vrai qu'eux ont été super déçus en disant finalement... ouais, bof, quoi. Tu ne te sens pas hyper spécial parce que tu as customisé ta montre. C'est vrai que c'est quand même un des gros arguments qu'on a longtemps, toi, quand on a l'Apple Watch. On dit, ouais, mais tu vas pouvoir avoir tel bracelet avec tel bord, là, et puis ça va faire toute la différence. Toi, tu penses que les gens ont quelque chose à foutre. Donc, moi, je sais que je ne porte pas de montre, donc je m'en fous un peu. Mais comment tu vois ce besoin de customiser?
Bon, ça, c'est toujours le grand débat qu'il y a depuis des millénaires, je vais dire, mais de pas mal d'années, de dire est-ce que le customiser fait plus vendre.
Quelle est la réponse officielle?
La réponse officielle, ma réponse officielle, c'est que je vais faire... Ça, c'est une réponse de consultant. Écoute ça, ça dépend. Le truc, c'est que pour moi, c'est juste... Des fois, le choix ne te permet pas de te décider tout de suite. Exemple, l'Apple Watch. Apple était vraiment bon dans le processus de décision. C'est-à-dire, tu voulais un iPhone, c'était très simple de dire, je veux un 64, un 32, un Gold, un truc, clac, clac, j'avais mon iPhone, tout allait bien. À la base, il n'y en avait qu'une couleur ou deux, hein, vous vous souvenez. Et là, tu arrives dans l'Apple Watch, tu as l'Apple Watch normal, l'Apple Watch Sport, l'Apple Watch X et Y, tu as en plus des bracelets de différentes couleurs. Pour moi, le choix était très difficile à faire. Au lieu de me dire, je veux une Apple Watch, je choisis la couleur et puis voilà. Donc, cette complexification rend plus difficile le choix du consommateur et aussi, on est obligé de lui l'expliquer, lui la montrer. Donc, le processus de vente dure plus longtemps. Est-ce que c'est bien? Bof. il faut que ça ait une réelle valeur ajoutée. Est-ce que le fait d'avoir un bracelet rose avec un truc en... Pour moi, en tout cas, ça n'avait pas une réelle valeur ajoutée. À savoir qu'on parle quand même aussi à un domaine plus féminin qui, eux, ont une autre manière d'acheter que nous, les hommes. Donc, je pense aussi que ça dépend des personnes.
Ouais, non, je suis assez,
Après,
assez
qu'est-ce que tu
d'accord,
peux
ouais.
customiser, c'est ça? Alors, sur ta montre Motorola, est-ce que tu pouvais inscrire ton nom ou tu pouvais juste changer la couleur? Ça doit être aussi impactful, quoi. Ça doit être aussi assez cool, ce que tu peux customiser, que seulement changer la couleur.
Non, tu peux changer alors tu peux changer la matière. Tu peux se dire plastique ou cuir, par exemple. Tu peux changer la couleur, évidemment, puis la couleur du cadran. Mais bon, tu vois, voilà, c'est des trucs comme ça. En même temps, non, c'est pas un truc qui va faire que tu es complètement unique. Tu peux être plus proche de ce que tu aimes, simplement. Ouais. Ouais, bon. À voir, quoi. En tout cas, là, eux n'étaient pas convaincus. Voilà. Juste encore, peut-être, deux, trois petites news, quand même. Allez, Mike, on est obligé d'en parler. On s'est dit en début d'émission, on n'en parle pas. Et puis, je sais que tu en as déjà parlé plein de fois partout, mais je veux quand même savoir ce que tu penses du bouton Amazon. Juste le bouton, on va pas parler de tout ce qu'ils ont fait Amazon, mais juste le bouton Dash, que tu nous expliques ce que c'est, et puis que tu nous expliques ce que tu en penses.
Oui, bah, alors c'est quoi le bouton Dash d'Amazon? On parlait de Procter & Gamble, se sont associés à Procter & Gamble pour justement créer un bouton très, très facile d'utilisation. Tu le mettrais près de, alors il sert à quoi? Il sert à automatiquement racheter un produit. Donc ce bouton, il a comme une petite étiquette. Ça serait par exemple, allez, on va prendre ce qui est simple parce que pour des lames de rasoir, voilà,
Ouais,
Gillette,
c'est bien
et
ça.
t'appuierais automatiquement sur tes lames de rasoir et il rachèterait la quantité fixée automatiquement à travers Amazon sans, et il te les livrerait. Bien sûr, tu es un Amazon Prime Subscriber, comme Patrick Béja disait que c'est incroyable, parce que moi je peux pas parce que je suis en Suisse malheureusement, et tu reçois ça gratuitement à la maison, enfin gratuitement sans frais de livraison. Et ce bouton, ben voilà, il est customable, donc tu peux en avoir plein dans ta maison. Puis l'idée, c'est que ben, tu appuies sur ce bouton, automatiquement, ça commande chez Amazon. Et Amazon est allé une étape en plus, s'appelle Dash Replenishment Service, donc voilà, de refourniture, pour pouvoir l'intégrer dans les objets. Donc à terme, il est tout à fait possible qu'une machine à café ben, intègre ce bouton Dash à l'intérieur de sa machine en appuyant pour commander automatiquement les capsules. Ou voilà, pour son lave-linge, pour commander automatiquement le produit. Et ça, c'est une nouvelle manière de pouvoir acheter qui est assez révolutionnaire. On avait parlé, vous vous souvenez du bouton Darty, mais c'était le bouton pour parler avec les consommateurs. Alors, je ne sais pas s'il marche, si vous utilisez le bouton Darty, merci de nous le dire dans les notes de l'émission ou par Twitter, parce que ça m'intéresserait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment, on l'a pensé, Amazon le fait, quoi. Et ça, je pense que ça va cartonner.
Tu te souviens, on avait parlé d'une startup qui s'appelait Button, donc BT.TN. Et eux, ils voulaient lancer le bouton pour tout. C'était dans l'esprit IFTTT, un petit peu. Yo avait lancé aussi une sorte de bouton, mais là, c'était pas physique. Mais le Button, c'était vraiment physique. C'était pas pris parce qu'ils n'avaient pas cette immédiateté de l'utilisation. Tu devais toi choisir qu'est-ce que ça faisait. C'était comme tu
Oui.
disais, c'était trop compliqué. Par contre, là, ça répond à un truc. Et c'est vrai que tu n'as pas envie de ça pour tout. Tu n'as pas envie d'avoir vraiment un bouton sur un truc. Ça devient nouveau trop compliqué. Mais juste pour le café, ils ont trouvé des excellents exemples. Le café, la poudre à lessive, c'est le genre de truc que tu n'as pas envie d'y penser toute ta vie, quoi. Tu as juste envie qu'il y en ait à côté de ta machine. Ça, c'est super bien vu. Comme beaucoup de monde, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, j'ai vu le truc passer. Je me suis dit, haha, poisson d'avril, super, j'ai pas lu du tout. Et quand quelqu'un m'a expliqué que c'était pas un poisson d'avril, d'abord j'étais vérifié en me disant, non, mais attends, oublie. Et puis maintenant, en fait, je suis hyper chaud et je pense que je n'en ai rien à côté de ma machine à laver dès que je peux.
Oui, et l'intégration à l'intérieur du produit. Parce qu'on disait souvent, ouais, alors le frigo, il doit être intelligent, il doit commander
Oui.
automatiquement pour toi. Mais tu laisseras jamais un frigo commander pour toi, en tout cas pas à l'instant même avec une technologie T comme on l'a. Tu seras toujours obligé de valider la commande. Et ça, ce petit bouton, il pallie à ce problème. C'est genre, j'ai besoin de lait, j'appuie, j'ai le lait. Ou des choses comme ça. Et ça, je trouve beaucoup plus intelligent et facile pour l'utilisateur que de configurer son frigo avec ses 50 000 items. Parce que la
Ouais.
problématique, c'est aussi la configuration, la facilité d'utilisation. pour qu'il y ait de l'adoption. Et ça, je pense qu'il y aura de l'adoption. Donc bravo Amazon, bravo Procter. On se réjouit d'appuyer sur Dash.
Ouais, ah, c'est marrant, il y a Jean-Philippe en cause, dont on parlait justement, vous voyez, Petit Monde, et qui dans la chatroom nous dit qu'il a commandé un projet qui était justement similaire à Button, qui s'appelle Flick. Ah ouais, c'est toi, que ça n'a pas été fait par des francophones. Hein. Donc Flick, c'est FILC, voilà, The Wireless Smart Button, et puis ils ont quand même levé 781 000 dollars pour ce bouton, bah, la même chose. Bon, ça te permet, là, c'est plus des choses. Pas forcément des commandes. Tu pourrais commander une pizza, y mettre, mais tu sais plutôt partager ta où tu es ou allumer la lumière. Enfin, ça te permet d'avoir juste des interrupteurs à d'autres endroits. Bah, tu nous feras signe quand tu auras reçu ton flic de ce que ça vaut la peine ou pas, finalement, un petit peu dans l'esprit Internet of Things.
Ouais. Là, on voit bien, on est vraiment dans la simplification pour l'utilisateur. On parlait du SMS la semaine dernière, vous vous souvenez, en parlant de tous ces services SMS qui vont, où on va plus avoir besoin de téléphoner, ça va être beaucoup plus facile à communiquer. Et ben là, ça va exactement dans la même chose. La facilité pour l'utilisateur de faire les choses moins compliquées et pas en regardant toujours son téléphone.
Ouais. Bah écoute, puisqu'on est sur. Alors là, j'ai parlé un truc qui n'a rien à voir, mais en même temps, ça me faisait plaisir. Et puis pas tant que ça n'a rien à voir. On était sur Indiegogo, là. Il y a De La Soul qui a lancé un projet Kickstarter pour son nouvel album. Alors oui, c'est pas très nouveau de faire du crowdfunding pour des projets musicaux et tout ça. C'est peut-être même un des premiers cas qui a été utilisé. Mais bon, ils voulaient lever 110 000 dollars, ils en sont à 350 000. Voilà, il n'y a rien de trop nouveau, mais j'aimais bien De La Soul, j'aime bien Kickstarter, donc je me suis dit, c'est comme quand tu mets deux trucs, deux ingrédients que tu aimes bien, il n'y a pas de raison que ça ne donne pas quelque chose de formidable, hein, c'est la même chose.
Alors
Donc.
ça, tu vois, c'est toujours la même chose. C'est toujours, moi, j'aime bien De La Soul. Alors déjà, ça montre que t'es vieux, Ben. Si t'aimes De La Soul, deux, comme moi d'ailleurs,
Oui.
deux. Ce que je serais intéressé de savoir, c'est est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas de label et qu'ils se font payer leur studio en disant, ben voilà, on va le faire parce que on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'un label comme ça et puis on veut le faire nous-mêmes. Ça, si c'est ça, je trouve ça vraiment fameux parce que en
Oui.
plus ils ont une fan base comme toi, comme moi, qui est énorme. Ils ont de l'amour partout sur la planète, quoi. On demande que ça. Et si on peut les aider en
Nous,
achetant
on
leur
a de
CD à
l'amour partout
l'avance?
sur la planète. Ils sont
Oui.
comme toi, comme moi. Ouais, là, je suis d'accord.
On les aime bien. C'est des gens.
Oui.
C'est
Oui, à
plus
fond, oui.
des rappeurs de leur début avec un message positif, qui ont toujours eu un
Oui.
message positif. Et donc pour moi, c'est vraiment. Ouais, ça me donne vraiment envie de participer. Donc je crois que je vais back ce projet. Est-ce que je peux acheter le vinyle ou est-ce que je peux avoir la version digitale? CD in hand, mais j'aime pas les CD. Alors, il va falloir que je regarde ça.
Écoute, oui, tu as le vinyle pack, bien sûr, le t-shirt et vinyle même, pour 75 dollars. Donc voilà, tu vas vraiment leur faire plaisir. Et puis, c'est exactement ce que tu dis. Hein. Donc, ils disent, on ne veut pas de label qui rentre et qui interfère dans notre processus créatif.
Oui.
Donc voilà, on se retourne vers vous pour pouvoir faire ce que nous, on a envie et ce que vous, vous aimez. Donc, assez cool. Et puis bon, ils ont Damon Albarn, ils ont l'air des gens bien, bien cool qui ont l'air de les accompagner dans le projet. Donc, ouais, ça vaut la peine.
Et c'est comme tout produit. Toi, tu es connu, mais tu as un produit et tu as directement des gens avec lesquels tu peux interagir, qui sont des fans, qui vont parler de toi tout autour. Et souvent, c'est ces gens comme ça qui ont été des vedettes à l'époque, mais qui ne le sont plus vraiment, hein, faut le dire quand même. Ils sont
Ah
plus
oui.
voilà, les numéros 1 des charts, mais ils ont quand même cette fanbase qui est énorme. Et je pense que ces trucs comme Kickstarter, ce n'est pas Indiegogo, hein, c'est Kickstarter, ils ont vraiment cette possibilité-là. En plus, Kickstarter, ils viennent de New York et De La Soul aussi, si je crois bien. Donc, ils étaient nés pour. Ils étaient faits pour s'entendre. Je trouve cool, je vais back le projet, je crois.
C'est beau. Bon, bah, écoute, content si on peut profiter pour l'effet Niptech. On vise en tout cas un explosive kittens hein, pour De La Soul. Écoute, il y a encore des trois petites news, mais finalement, on fait plus court ces temps, mais on fait vraiment les news qui nous font plaisir. Est-ce qu'il y en a dans le tag, j'ai pas dit, qui te semblaient vraiment encore importantes, ou est-ce qu'on va tranquillement vers la partie inspiration?
Moi, il y avait une news que j'ai pas regardée, j'ai même pas cliqué, qui était au niveau du pricing. Vous savez, j'aime bien le pricing, je fais une IPSES, donc j'aime bien la vente. Et c'était comment est-ce que ou Uber ou les airlines peuvent aider les jeux vidéo. Et ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce qu'ils peuvent aider les jeux vidéo, nos amis d'Uber et les compagnies aériennes.
Ouais, alors écoute, c'est tout bête. C'est vrai que c'est un article que j'ai mis parce que je trouve une question que je voulais te poser. Alors, on va prendre un gros chapitre là, du coup. Pourquoi est-ce que le dynamic pricing est seulement dans certains endroits, bah, comme les compagnies aériennes et Uber? Là, il disait, il prenait l'exemple des jeux. Il y a une société qui s'appelle Gondola qui a lancé justement du dynamic pricing pour les objets que tu peux acheter dans les jeux. Selon la demande, ben voilà, tu en auras plus ou moins cher. Et alors, c'est surtout, ça vaut la peine probablement pour les jeux multijoueurs, hein, parce que sinon, il n'y a pas d'idée de compétition pour des ressources. Mais je me demandais, est-ce que le dynamic pricing, il arrive aussi dans le retail? Est-ce que c'est possible qu'un jour j'aille chez Carrefour et puis on dit, ah ben tu sais, mon ami, les salades aujourd'hui, il y en a eu pas mal, donc c'est 2 euros. Et puis le lendemain, c'est, ah non, ben, aujourd'hui, pas terrible, 1 euro. Pourquoi pas?
Mais ça existe déjà, hein, ça s'appelle les promotions. Alors la seule
Non, mais là, je
différence.
te dis, échanger à l'heure, quoi.
Ouais. Bon, dans le retail, ils s'adaptent, hein. Ils commencent à
Ouais.
mettre de plus en plus de petits panneaux où les panneaux sont pas des panneaux avec les prix physiques, mais ils sont des panneaux digitaux.
Digitaux.
Et ça peut changer plus facilement, puis ça peut changer à l'heure. Donc les prix qui changent à l'heure, ça va devenir une réalité d'ici 5 à 10 ans partout. Après, le dynamic pricing, moi, je trouve toujours que c'est un peu intéressant, surtout pour les hôtels ou l'aviation, quand en fait t'en as moins. Parce qu'il y a un côté, le moins il
Il
y
y
a
a
de
de la
place
limite,
dans
quoi.
un avion, le plus ou le moins il y a de chambres d'hôtel dans une ville, le plus elles vont coûter cher. Donc il y a aussi ce côté de problématique d'offre et demande. Après, pour des produits, c'est clair que l'offre et la demande, elle est là, mais seulement dans un laps de temps. Une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, le produit reviendra. Donc oui, le dynamic pricing, il va se développer. Je pense que l'aviation, on en avait parlé avec Lorenzo Stoll de Suisse dans l'IPSES, pour ceux que ça intéresse, au niveau du dynamic pricing. Mais je pense qu'elle peut être utile un peu partout. Elle l'est de plus en plus. Et on le voit sur Internet, d'un jour à l'autre, les prix des éléments peuvent changer. Mais est-ce qu'elle est à ce point-là applicable pour tout? Je me demande. Dans les jeux vidéo, je me dis, mais c'est des espèces de biens digitaux. Comment tu veux qu'ils soient réduits? C'est comme faire ça pour la distribution d'MP3. Ça ne marcherait pas.
Ouais, non, tu dois créer toi-même cette rareté artificiellement, de dire, bon, bah, des boucliers d'argile niveau 3, bah, il n'y en aura que X, et
Ouais.
puis, bon, je ne vous souhaite pas un bouclier d'argile, ceci dit, mais ouais, tu vois le genre, quoi. Ouais.
Oh, tu crées la rareté en disant je vais un peu comme les bitcoins, où je dis ben voilà, je vais en créer tant, et ça veut dire que le prix il va évoluer dans le temps, et ça veut dire qu'à terme il n'y en aura plus.
Ouais.
Ça c'est clair. Si tu crées ça dans un jeu vidéo ou sur un bien digital, là le dynamic pricing fait sens, je trouve.
Je crois aussi qu'il y a un côté un peu plus vicelard qui est de dire, de savoir en fait à qui il s'adresse. Et donc de dire aussi, c'est du dynamic pricing, mais pas neutre. De dire, ah ouais, bon, toi, on voit que bah, tu as un iPhone 6 Plus Gold, donc on va te mettre l'objet à 9,99 $. Et puis toi, bah, tu as peut-être juste un Android bas de gamme, et puis tu as l'air jeune. Allez, je le mets à 1 $, toi.
Je crois que on m'a dit que les gens le faisaient, mais ça, il peut avoir un retour de bâton du consommateur de manière très très violente si on fait ça. Parce
Je pense
que
que c'est, tu peux te foutre la gueule du monde jusqu'à un certain point seulement, ouais, je suis
oui,
d'accord.
parce que le consommateur, c'est comme lui dire, bon, ça marche des fois sur les promotions des salades, parce que la différence de prix n'est pas énorme, mais imaginez que vous achetez une voiture qui vaut X, et puis le lendemain, elle vaut X moins 20 ou moins 30%, je peux vous dire que vous retournez chez votre concessionnaire, hein, et je vous rappelle que vous avez entre 7 et 14 jours pour casser le contrat, donc vous pouvez le faire normalement. Donc c'est aussi un danger, je pense que les marques en sont conscientes aussi. Après, c'est un joli mot, le dynamic pricing, je pense. Je me réjouis de voir comment ça se développe.
Ouais, intéressant. En tout cas, voilà, c'était le petit. J'ai pris la news aussi parce qu'effectivement, le NIP Sales sur le Dynamic Pricing et sur le Suisse en général, la compagnie aérienne, était hyper intéressant. Donc voilà, c'était une façon de rebondir.
Ah, c'est bien, tu me faisais de la pub, je suis content.
C'est clair, c'est clair. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la partie inspiration, Mike?
Alors, la petite partie inspiration, vous savez, alors on va commencer. Vous vous souvenez, je vous parlais souvent de mes défis sportifs à l'époque. Et j'en ai plus parlé, t'es d'accord? Ben, j'ai arrêté de parler des défis sportifs, mais ça ne veut pas
Ouais,
dire que
il y a
j'ai.
deux, trois personnes qui m'ont dit, ouh là là, Mike, il a dû péter la balance parce qu'il parle plus du tout de son poids. Donc,
Ah ben non, mais je m'entraîne 3 fois par semaine. J'ai un trainer que je prends, d'ailleurs ça m'aide beaucoup pour pouvoir me développer. Je continue maintenant depuis une année, Donc ça va bien, même si mon poids diminue pas tant que ça, en tout cas ma forme physique augmente, donc je suis très content. Et ben voilà, on était avec des potes, ben vous imaginez, on mange pour les, c'était le vendredi saint. Donc ce vendredi, on s'est dit, bon ben voilà, comment est-ce qu'on peut motiver tous ensemble à faire du sport? Et on était là, cinq, et on s'est dit, bon ben voilà, on a 3 mois pour être les plus fit possible. Alors en 3 mois, on peut vraiment changer sa vie, hein, changer son corps, changer tout ce qu'on veut. Et on s'est dit, bon voilà, on se laisse jusqu'à fin juin pour être le plus fit possible. Et il y a une personne indépendante qui définira, en enlevant notre t-shirt, qui sera plus fit de nous cinq. Donc on a tous voté, et bien sûr le perdant, donc le perdant doit payer une soirée aux 5 autres, enfin aux 4 autres, lui inclus. Donc ça risque de lui coûter énormément cher. Ce qui a fait, on a fait faire un petit WhatsApp avec ce défi, et puis ce qui a fait que tout le monde a recommencé un peu à faire du sport pendant ces 3 jours, et peut-être s'est limité dans sa quantité de bouffe qu'il a avalée. Et je trouvais ce concept vachement sympa. Aussi arrive l'été, donc on va devoir tous tomber le t-shirt. Donc pour ceux qui ont tendance à être un peu plus en surpoids comme moi, il est de vous bouger le cul et de faire ce genre de défi avec vos potes parce que ça marche. Vous faites un petit groupe WhatsApp, vous l'appelez comme vous voulez, et à chaque fois que vous allez vous entraîner, vous mettez un petit mot pour essayer de faire une petite guéguerre sympa. Je vous dirai si je gagne. Mon but, c'est de gagner, hein, comme d'habitude, et on verra si je le fais. En tout cas, demain, 6h30, je vais m'entraîner, c'est sûr.
C'est malin parce que non seulement bah, si tu le fais dans un groupe, c'est public vu que tu le dis à d'autres. En plus, tu as la pression du groupe et l'envie, les peers, les pairs. Donc, ça, on sait que ça marche bien aussi de le faire avec des gens qui sont similaires à toi et que tu aimes. Et puis, enfin, tu as la punition violente parce que c'est vrai que je vous vois passer une soirée. J'aimerais pas être celui qui doit sortir le porte-monnaie. Donc, je pense que demain matin, 6h30, je serai aussi sur la piste, soit pour faire des poids, soit pour courir. Mais en tout cas, je ferai un truc, c'est sûr, quoi.
Oui.
Cool. Bon, bah, dites-nous si vous faites des trucs comme ça nous intéresserait. Pas obligé de les photos, la chemise et tout, vous gardez, vous nous dites juste le résultat à la fin, ça nous suffira, quoi.
Ouais, c'est très bien, des petits défis. Alors, c'est le défi de la semaine. Et puis, pour tous ceux qui pensaient que j'avais abandonné les sports, vous avez tort, je n'ai pas abandonné. Deuxième petite chose, un truc assez cool, un podcast que j'ai écouté, une interview. On a beaucoup parlé de Periscope aussi la semaine dernière, récemment. Et il y a le co-founder de Periscope qui parle dans un podcast avec Jason Canis, notre maître à tous. Et franchement, l'émission est bonne. Il parle, il explique pourquoi, comment il a développé ça. Vraiment, le gars parle bien en plus. Donc, je vous invite à aller écouter ceux qui parlent l'anglais, un peu la genèse de Periscope et comment c'est venu, comment il a développé cette application. Donc, allez voir Twist, This Week in Startup, ou vous allez sur les notes de l'émission pour écouter ce podcast. Très cool.
Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu as retenu de tout ça?
J'ai retenu une chose, c'est qu'il parlait aussi pas mal de Mercat, lui, et il explique que ben voilà, ça s'est un peu développé, et ça s'est développé en même temps, comme toutes les bonnes idées se développent en même temps. Des fois, on s'étonne, mais à 2 jours près, il y a des choses qui se développent dans la même vague. Et il expliquait une chose intéressante en disant qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de faire ça, ce genre de choses comme Meerkat, mais il dit que c'est vraiment un croisement des technologies. Le fait qu'il y ait des portables, le fait qu'il y ait des iPhones, des Android qui sont vraiment performants, parce qu'il dit qu'il y a 2 ans, on n'aurait jamais pu faire ça. Le fait qu'il y a aussi un réseau 4G qui permet ça. Donc, c'est des fois pas forcément qu'il n'y a pas eu des startups qui l'ont fait avant, c'est vraiment qu'il arrive au bon moment. Et ça, je trouvais intéressant. Et deuxième chose que je trouvais intéressant, il expliquait pourquoi Meerkat a eu des problèmes avec Twitter. C'est qu'en fait, les commentaires que tu mettais dans l'application Meerkat avec la vidéo, ça faisait automatiquement des posts Twitter que les gens ne comprenaient pas parce que c'était des réponses à une vidéo. Donc, c'est pour ça que Twitter a mis le holà. On a dit ouais, ils n'ont pas le droit et tout. Mais c'était tout à fait honnête et normal que Twitter réagisse comme ça.
Ouais, c'était hyper violent. Moi, j'ai vu au début, même ils tweetaient, tu sais, comme les trucs que plus personne fait. Ils disaient, oui, j'ai installé Meerkat, venez avec moi, tu sais. Parce que quand tu autorisais l'app, tu autorisais à poster des tweets.
Oui. Et
plus personne poste des tweets à ta place maintenant. Ou alors vraiment des trucs que tu as demandé, toi.
Oui.
Et de juste le faire à la sauvage, ça se fait plus, quoi.
Bon. Non.
Et bravo à eux, ils ont quand même réussi à bien monter en jouant sur la zone grise, mais ils sont aussi bien fait taper dessus, ouais.
Mais ça, c'est intéressant de voir, et puis de la viralité de ces apps qui se développent. Moi, j'ai continué à un peu utiliser Periscope. Je trouve intéressant. Je pense que on n'a pas encore compris tout le modèle, mais j'ai regardé et je pense que ça peut être utile aussi pour les trucs à la télé, tout ça. Je pense que ça peut. Il y a un use case qui va exploser, je le sens. Je le sens. Donc, c'est bien.
Bon, écoute, cool, cool. Preneur, ouais.
Et pour la côte, on va passer
Ah,
à la
la quote.
côte.
Oui, alors.
Et la côte, quelqu'un me l'a envoyé que j'ai trouvé vraiment bien. Vous m'envoyez pas mal de côtes, j'en suis très content. Donc continuez à le faire, surtout à m'envoyer des côtes. Elle est bien, mais celle-là, elle vient de Les Brown. Alors je ne sais pas du tout qui c'est Les Brown, mais j'ai bien aimé cette côte qui dit la chose suivante. T'es prêt, Ben?
Je suis tout à fait prêt, oui.
Don't let someone else's opinion of you become your reality.
Ne laissez pas l'opinion de quelqu'un d'autre devenir votre réalité. Ouais, mais c'est tellement vrai, c'est tellement, ouais, c'est puissant, c'est bien dit. Je suis fan, j'aime beaucoup, effectivement. Chacun dans son cerveau, enfin, il n'y a pas de raison de laisser aussi les ondes négatives et tout ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, souvent. Je trouve que quand c'est une opinion, ça va, mais quand c'est un contexte, c'est des fois le contexte professionnel qui est négatif, tu as toujours des gens négatifs autour de toi. C'est difficile de ne pas être contaminé, je trouve.
Oui, c'est pas facile. Alors déjà, je suis content que t'aimes la côte, parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que c'est pas tout le temps
Non, non, c'est
Ben
pas
et son
facile.
esprit d'ingénieur ne comprend pas tout le temps mes côtes. Je vois que c'est personnel, mais j'ai aussi la même chose dans Nipsey. Des fois, Marco, il fait des côtes qui me laissent un peu bouche bée, j'avoue. Donc je crois que les côtes, c'est quand même un côté personnel. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est vrai que ouais, il y a toujours des gens qui ont des opinions. Et puis il faut les prendre comme telles, comme des opinions, pas la réalité. Et voilà, des fois on fait des choses où on a une attitude, on peut se dire, bon, des gens ont des, où on a une start-up, où on pense qu'on va changer le monde et les autres ont une opinion différente, c'est qu'une opinion, leur avis. Et c'est un avis. Vous, votre réalité, vous la créez vous-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle quote pour nous dire, continuez, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous.
Ouais, j'adore. Bah écoute, c'était une très belle quote pour finir cette émission. Voilà, donc vous nous retrouvez sur Twitter, @NipTechPodcast pour parler à tout le monde, ou @BQRD ou @Syde, SYDE. Voilà, comme ça, c'est facile. C'est vrai que bon, les communautés Google+, j'y vais plus trop. J'avoue que j'étais un des fidèles pendant longtemps, mais là, j'y arrive plus non plus. Donc, mais bon, on y est quand même, on y est quand même. Il y a encore du monde. Et puis sinon, laissez-nous un petit mot sur niptech.com, ça nous fait plaisir. Petit commentaire sur iTunes, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. Et votre mission pour la semaine, c'est de ne pas vous laisser pourrir la tête par les autres, d'aller de l'avant, le sabre à la main, comme on aime. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, profitez bien. Ciao.
Ciao, ciao.